La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Ce mois-ci, nous allons reprendre finalement une couture déjà élaborée au mois de novembre. Cette couture va approfondir le lien entre théologie et philosophie à l'approche de Noël. Philosophie et théologie. Pourquoi ? Parce que le mois dernier, nous avons regardé trois invariants, pourrait-on dire, de la philosophie réaliste pointée par Maritain, à savoir l'aspect scientifique de la philosophie, le sens commun et le rapport entre philosophie et théologie. Et il me paraît très important de revenir sur ce rapport de manière un peu plus décontractée, puisque j'essaie d'alterner un mois un peu difficile, un mois un peu plus facile, au moins dans l'écriture philosophique de Maritain. Et en revenant sur ce rapport, nous allons passer dans les textes d'après la guerre. Des textes qui se veulent d'écriture plus accessible, un peu comme Marx qui aura une écriture philosophique accessible pour que tout le monde puisse la lire. Ce qui ne veut pas dire que ce soit plus simple. C'est toujours très profond. Et revenir sur la couture philosophie-théologie me semble important. Si je veux cataloguer, je dirais que le bien commun, on va dire, c'est acquis. Dans la philosophie réaliste, ça ne pose pas de questions. On pourrait dire que c'est une inflexion du passé. L'aspect de science, au contraire, est une inflexion du présent. Je ne veux prendre pour témoin que la chaire de métaphysique du Collège de France, avec sa titulaire Claudine Tiercelin, qui le 5 mai 2011, dans sa leçon inaugurale, insiste sur la métaphysique comme science contre les ironies qu'on peut avoir à propos de la métaphysique comme esprit de système, déprécié, comme une présomption, ou alors une naïveté, une sottise, voire une ignorance, pour reprendre les termes qu'elle utilise dans sa leçon inaugurale. Et puis, pas très longtemps, en 2018, elle convoque un congrès de réflexion autour, finalement, de la définition de la métaphysique comme méthode de connaissance. On est autour de la science, même si elle part d'autres philosophes que Maritain, Villemain, Bouveresse, puis Peirce, sur lequel elle a fait sa thèse. Et pour le futur, je crois que la grande question à réouvrir, c'est celle du rapport entre philosophie et théologie. Et pour mieux y entrer, je vous propose de partir d'un texte de Jacques Maritain, dédié à Jean de Ménasque, intitulé « Une nouvelle approche de Dieu ». Vous pouvez le trouver dans les œuvres complètes, le volume 9, donc les années 1947 à 1951. Et c'est un texte qui a une certaine actualité par l'hypothèse qu'il pose au départ « Si la civilisation doit survivre ». Je crois que nous sommes dans des questions graves actuellement et c'est pour cette raison que j'ai choisi d'aborder ce texte qui s'appelle « Une nouvelle approche de Dieu » à partir finalement d'une inquiétude que nous avons due au plan planétaire. Si la civilisation doit survivre, le nouvel âge de civilisation sera un âge d'intégration spirituelle aussi bien que sociale. Aujourd'hui, l'esprit humain est déchiré et divisé entre le positivisme et l'irrationalisme. Quand Maritain écrit ces lignes, on sort de la Deuxième Guerre et pour Maritain, le fascisme, la montée des totalitarismes s'appuient sur des forces pulsionnelles, irrationnelles. Ce n'est pas l'apothéose d'une civilisation cultivée, ce n'est pas un trop-plein de raison, c'est plutôt un manque de raison qui a abouti à la Seconde Guerre mondiale avec la montée de l'hitlérisme. Maritain poursuit ce chapitre, une nouvelle approche de Dieu, en faisant une sorte de regard, d'éventail, de panorama sur les différents courants de philosophie et il voit dans l'effort du pragmatisme des découvertes importantes qui concernent un certain nombre d'attitudes foncières dans l'ordre de la pensée et de la moralité et dans ce qu'on peut appeler la sociologie de la connaissance, mais en tant que système universel de savoir et de vie, en tant que philosophie, le pragmatisme a fait faillite. On peut en dire autant de l'effort de synthèse, parfois grandiose, mais centré seulement sur l'esprit humain, que l'idéalisme a tenté. Ce qui est essentiellement requis pour un philosophe, essentiellement renvoie à quelque chose de fondamental, de l'ordre de la nature, c'est un renouveau de la métaphysique. Les conceptions de la science moderne, l'unification de la matière et de l'énergie, l'indéterminisme physique, la notion d'espace-temps, la nouvelle réalité reconnue à la fois à la qualité et à la durée, dans un cosmos d'électrons et d'étoiles où les étoiles sont les laboratoires célestes des éléments et qui est soumis partout à la genèse et à la transmutation, univers qui est fini, mais dont les limites ne peuvent être atteintes en raison de la courbure de l'espace et qui évolue dynamiquement dans une direction vers les plus hautes formes d'individuation et de concentration et vers une dégradation simultanée de la qualité de son énergie totale. Tout cela est description extérieure et imagerie scientifique plutôt que vue ontologique et ne peut pas directement servir à une extrapolation philosophique ou métaphysique. Mais tout cela constitue une représentation du monde incomparablement plus favorable à l'édification d'une philosophie de la nature et plus ouverte au travail d'approfondissement de la raison métaphysique que la vieille physique newtonienne. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous lire cette phrase qui fait un paragraphe. Je pense qu'elle passe bien à la radio parce que Maritain écrit de très longues phrases dans un style extrêmement clair. J'aime les longues phrases parce que je pense que la syntaxe française, héritée de la syntaxe latine, se prête à ces courbures de la pensée, ces inflexions. On pense bien sûr à Proust et à Flaubert. Et j'ai du mal avec les phrases courtes à l'américaine, on va dire. Maritain, donc, insiste sur ce panorama. Et vous avez vu qu'il a donné une grande part aux sciences. Le mot « imagerie » peut être conçu comme péjoratif, mais en fait, c'est parce que ça renvoie à « image », à « représentation ». Il va l'utiliser plusieurs fois dans son texte, même pour d'autres domaines que la science. Et il termine ce paragraphe en disant « une redécouverte de Dieu ». Les philosophies existentielles qui sont aujourd'hui à la mode, pensons à Sartre, ne sont que le signe d'un certain désir profond de retrouver le sens de l'être. Désir frustré par elles, car ces philosophies sont encore asservies à l'irrationalisme et cherchent la révélation de l'existence, de l'extase ontologique dans le brisement de la raison et l'expérience du désespoir et du néant, de l'angoisse ou de l'absurdité. On voit quatre philosophes pointés avec désespoir, on pense à Kierkegaard, avec néant, on pense aussi à Kierkegaard et à Heidegger, angoisse bien sûr à Heidegger, absurdité à Camus. Le véritable existentialisme est l'œuvre de la raison, l'acte en vertu duquel j'existe et les choses existent, transcende les concepts et les idées. C'est un mystère pour l'intelligence. Mais l'intelligence vit de ce mystère, j'entends, dans son activité la plus naturelle, qui est aussi ordinaire, journalière et vulgaire, que le manger et le boire. L'acte d'exister est, à vrai dire, l'objet même de tout acte achevé de l'intelligence, c'est-à-dire de tout jugement. Il est perçu par cette intuition intellectuelle immergée dans l'expérience du sens, qui est le trésor commun, d'autant plus précieux qu'il est naturel et imprègne les profondeurs de notre pensée, de toutes nos affirmations, de toute cette mystérieuse activité par laquelle nous déclarons ou bien ita est ou bien fiat. On le voit ici, il s'agit de reprendre les grandes questions sur l'existentialisme. Dans le débat, il s'agit d'opposer finalement l'existence à l'essence. Et Maritain va publier un texte fondamental pendant cette période. Il est à cette époque ambassadeur près de Saint-Siège de 1945 à 1948, donc à Rome. Il a fondé Saint-Louis des Français dans la forme que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire un centre culturel, une bibliothèque. Et il choisira comme ambassade la maison de Pauline Bonaparte, qui est toujours l'ambassade actuelle. Vladimir d'Ormesson lui succédera à cette fonction d'ambassadeur. Et pendant ces années, il écrit une œuvre majeure, à savoir le court traité de l'existence et de l'existant, réponse à Sartre, où il montre, mais finalement, que l'existence est pensée par saint Thomas d'Aquin dans la philosophie réaliste ne va pas couper l'essence de l'existence et qu'il faut la penser de manière dynamique, cette existence. Nous reviendrons après avoir écouté des chansons grecques de Maurice Ravel. Pourquoi ces chansons grecques? Parce que le réalisme est une longue tradition qui vient de la Grèce via Aristote.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Nous allons revenir sur un texte majeur de Jacques Maritain, un extrait de Raison et raison, publié après la Deuxième Guerre mondiale. Le chapitre 6, dédié à Jean de Ménasque, une nouvelle approche de Dieu. Et si j'ai choisi ce texte, parce qu'il répond finalement aux philosophies du nouvel existentialisme véhiculé par Sartre, à la suite de Heidegger, Camus, bien sûr Gabriel Marcel. Et ce texte est relativement simple dans sa lecture, dans son écriture, parce que Maritain cherche à être lu finalement d'un plus grand nombre peut-être que dans les textes plus techniques, de distinguer pour unir des degrés du savoir par exemple, ou du traité de l'existence et de l'existant. Pour Maritain, l'existentialisme est une véritable soif, un désir de redécouverte de Dieu, mais mal engagé. Donc il va essayer de dégager ce qui peut être repris pour créer ce qu'il défend depuis 1918, à savoir une civilisation chrétienne, et une civilisation qu'il va appeler un humanisme théocentré. Pour rappel, le Moyen-Âge est un théocentrisme, la Renaissance, un humanisme, et la Première Guerre mondiale montre l'impasse de cet humanisme, et Maritain, aidé de plusieurs, en particulier du prince Vladimir Gicka, va rêver d'une Europe chrétienne, avec des valeurs chrétiennes, mais en faisant droit aux apports de l'histoire, donc d'un humanisme théocentré. Après la Deuxième Guerre mondiale, il revient dans ce dialogue philosophique qui, dans les trois fondamentaux dégagés le mois précédent, à savoir la science, le sens commun et le rapport à la théologie, va interroger ce nouveau rapport entre philosophie et théologie. Redécouverte de Dieu. Comment ? Alors, je vais reprendre un texte déjà cité en septembre, mais on va le prolonger. Werner Zombart aimait à dire que le bourgeois, l'homme de l'âge capitaliste, n'était ni ontologique ni érotique, au sens il n'y a pas de désir, qu'il avait perdu le sens de l'être et le sens de l'amour. La torture et la mort, telles que l'Europe les a contemplées, nous ont fait prendre conscience de la signification de l'ontologie, la haine de celle de l'éros. Sortons du sommeil, cessons de vivre dans les rêves ou la magie des images et des formules, des mots bien systématisés, des symboles pratiques et d'une cabale de fin du monde. Quand un homme a été éveillé à la réalité de l'existence et de la vraie vie de la raison, à la valeur intelligible de l'être, quand il a réellement perçu ce fait formidable, parfois enivrant, parfois écœurant ou affolant, « j'existe », il est désormais saisi par l'intuition de l'être et les implications qu'elle comporte. Pour parler avec précision, cette intuition primordiale est à la fois l'intuition de mon existence et de l'existence des choses, mais d'abord et premièrement de l'existence des choses. Ici, on a un véritable traité de métaphysique de l'être, en concentré et dans un style tout à fait accessible. Quand cette intuition de l'existence des choses survient, je réalise soudainement qu'un être donné, homme, montagne ou arbre, existe, exerce cette souveraine activité, être, dans une indépendance de moi totale, totalement affirmative d'elle-même et totalement implacable. Et en même temps, je réalise que moi aussi, j'existe, mais comme rejeté dans ma solitude et ma fragilité par cette affirmation d'une existence dans laquelle je n'ai positivement aucune part, par rapport à laquelle je suis exactement comme rien. Ainsi, la primordiale intuition de l'être est l'intuition de la solidité et de l'inexorabilité de l'existence et secondairement de la mort et du néant auquel mon existence est sujette. Et troisièmement, dans le même éclair d'intuition qui n'est que ma prise de conscience de la valeur intelligible de l'être, je réalise que cette existence solide et inexorable, perçue en n'importe quelle chose, implique, je ne sais sous quelle forme, peut-être dans les choses mêmes, peut-être séparément d'elles, une existence absolue et irréfragable, complètement libre du néant et de la mort. Ces trois bonds, par où l'intelligence se porte à l'existence actuelle comme s'affirmant indépendamment de moi et de cette pure existence objective à ma propre existence menacée, et de mon existence habitée par le néant à l'existence absolue, sont accomplis à l'intérieur de la même et unique intuition que les philosophes expliqueraient comme étant la perception intuitive du contenu essentiellement analogique du premier concept, le concept de l'être. Texte magistral qui donne une réponse à Heidegger. Vous avez peut-être entendu parler du Dasein pour Heidegger. Je vais essayer de présenter ça de manière très concise. Pour Heidegger, nous sommes un être là, posé. Et quand on cherche à donner une explication, on va finalement avoir un présupposé. On va chercher à essentialiser ou à remonter à un universel. Et du coup, on va rentrer dans ce qu'il appelle un cercle. On va créer un aller-retour entre l'explication et le Dasein. Et le seul moyen de sortir de ce cercle, c'est de prendre le Dasein tel qu'il est, ainsi, posé là, et sans chercher à expliquer. Et la seule explication possible pour l'homme, à la différence des choses, c'est que l'homme sait qu'il est un être pour la mort, parce qu'il va mourir. Du coup, il fait passer peut-être le néant, l'être pour la mort en premier par rapport à cette intuition de l'exister. Donc en rétablissant une intuition de l'exister, une intuition de l'être, comme vient de le faire Maritain fait passer d'abord l'existence en premier, même si il peut y avoir dans un deuxième temps, qui est une simultanéité, tellement c'est concis dans la même intuition, cette prise de conscience du néant, mais il y a un troisième temps qui est cette apparition finalement d'un être d'amour, d'un être là, et ce n'est pas ce que Heidegger va pointer comme une ontothéologie. Nous reviendrons en mois de janvier sur ces définitions, nous reviendrons dans le contexte des années 20, des années 30, mais là, le mois de décembre, je voulais qu'il soit plus simple dans l'expression de cette problématique du rapport théologie-philosophie, et c'est pour cela que j'ai choisi donc Raison et raison, texte après-guerre, et le chapitre 6, une nouvelle approche de Dieu que nous réécoutons après la plage musicale de Ravel.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Une nouvelle approche de Dieu que propose Maritain après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez remarqué, j'ai fait un coupé-coller. Maritain écrit que dans l'intuition de l'être, on a une intuition, dans un troisième temps, d'une existence absolue et irréfragable, complètement libre du néant et de la mort. Et j'ai nommé cette existence absolue Dieu. Comment passe-t-on de l'existence absolue, libre du néant et de la mort, à Dieu ? Maritain propose ce détour. Alors, un raisonnement prompt, spontané, aussi naturel que cette intuition, surgit immédiatement comme le fruit nécessaire d'une telle aperception primordiale et comme imposé par et sous sa lumière. Raisonnement sans parole, dont on risque de trahir la concentration vitale et la rapidité en l'exprimant d'une manière articulée. Je vois que mon être d'abord est sujet à la mort et secondement qu'il dépend de la nature entière du tout universel dont je suis une partie et que l'être avec néant, comme est mon propre être, implique pour être l'être sans néant. Cette existence absolue que j'ai confusément perçue comme enveloppée dans mon intuition primordiale de l'existence et que le tout universel dont je suis une partie est être avec néant du fait même que j'en suis une partie, en sorte que finalement, puisque le tout universel n'existe pas par lui-même, il y a un autre tout séparé, un autre être transcendant et se suffisant à lui-même et inconnu en lui-même et activant tous les êtres, qui est l'être sans néant, c'est-à-dire l'être par soi. Ainsi, le dynamisme interne de l'intuition de l'existence ou de la valeur intelligible de l'être me fait voir que l'existence absolue ou l'être sans néant transcende la nature entière et me met en face de l'existence de Dieu. Voilà comment Maritain pose une nouvelle approche de Dieu, c'est-à-dire un nouveau lien entre philosophie et théologie. Nous l'approfondirons dans la prochaine séance, la semaine prochaine. À bientôt.